Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on est avec nos débriefeurs ce soir, alors ici et au loin. On salue d'ailleurs un autre qui est au loin aussi, c'est François Sorel, hein, qui me cède son fauteuil pour quelques jours. Bonsoir Yves Maître.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, operating partner chez Jolt Capital, consultant, ancien PDG de HTC, longue carrière aussi chez Orange, enfin, voilà, dans des télécoms. On aura l'occasion de parler de tout ça. Didier Sens, journaliste. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Depuis quelques années aussi, journaliste dans la tech, spécialisé dans la tech avec une analyse à l'heure très fine de tous nos sujets. Et puis à distance, c'est Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Frédéric.
À Montréal, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Justement, avant de prendre l'antenne, on regardait un peu la décoration de ton bureau avec du NASBATAG, un vieux téléphone à cadran là, qui nous rappelle notre jeunesse, voilà, parmi tout ce qui t'entoure ce soir. Alors ce soir, on va commencer, tiens, on va parler un peu beaucoup de Chine et d'États-Unis avec ce nouveau projet de loi américain. Alors vous avez entendu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées par le Congrès américains, enfin qui sont en cours de vote par le Congrès américain autour des budgets débloqués, notamment pour l'Irak, pour Taïwan, pour Israël. Et puis dans tout ça, il y a aussi dans tout ce package, eh bien les États-Unis lancent un ultimatum à TikTok. Je vous propose d'écouter les explications d'Anthony Morel et puis on va revenir tout de suite dessus avec nos experts.
Parce que si ce texte est adopté, ça va forcer ByteDance, la maison mère de TikTok, à vendre son application dans les 12 mois. S'ils le font pas, eh bien, elle sera purement et simplement supprimée, interdite des App Store, que ce soit chez Apple ou chez Android. Le vote de ce week-end doit encore passer devant le Sénat cette semaine. Il doit être promulgué aussi par Joe Biden, mais enfin, il a déjà dit qu'il y était favorable. Donc, ouais. A priori, c'est comme si c'était fait. Donc, c'est un vrai gros coup de pression de la part des parlementaires américains qui accusent toujours TikTok d'espionner les utilisateurs américains pour le compte de Pékin. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la parano? Ce qui est sûr quand on écoute les experts en sécurité, c'est que oui, TikTok, c'est un aspirateur à données. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on télécharge l'application, elle a accès à absolument tout, y compris au micro et à la caméra du smartphone. Enfin, on peut le refuser, mais on ne peut plus faire de vidéos sur TikTok, ce qui tue un petit peu l'intérêt d'avoir l'application. Après, la question, c'est est-ce que ces données sont effectivement envoyées et exploitées par Pékin? Là, il n'y a aucune certitude, mais le discours de l'entreprise est plutôt contradictoire. Souvent, ils démentent formellement, mais parfois, comme en 2022, ils reconnaissent officiellement que les données des utilisateurs peuvent être consultées selon les besoins du service par des employés en Chine, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Alors la plateforme a réagi en expliquant que son interdiction violerait la liberté d'expression de 170 millions d'Américains, ravagerait, dit TikTok, 7 millions d'entreprises, toutes celles, les restaurants, les magasins qui utilisent l'application pour faire leur promotion. Intéressant aussi de voir qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de voix, comme celle d'Elon Musk, qui s'oppose à ce texte au nom de la liberté d'expression.
C'est vrai qu'il a tout dit, Anthony Morel, notre spécialiste tech aussi, il y a tous les que vous retrouvez tous les matins en matinale. Bon, ça fait un petit moment que la pression monte. On se souvient que même de l'époque de Donald Trump, eh bien, on avait proposé à des Oracle, à des Microsoft de reprendre la partie américaine de TikTok. Là, on se sent quand même, on sent que ça sent le roussi, Didier.
Oui, parce que là, c'est le Congrès qui s'en mêle. Il y a quelques années, il y a eu Trump avait commencé à montrer les gros bras, et puis ça avait fini en eau de boudin parce qu'il y a eu des pressions de la part des entreprises qui utilisaient TikTok, des utilisateurs qui étaient mécontents. Mais là, c'est le Congrès qui s'y colle. Et apparemment, si le texte est adopté, ça va finir sur le bureau de Biden. Et Biden, il est plutôt pour l'interdiction.
Oui. En fait, si c'est un utilisateur, hein, il le dit.
Oui, mais il y a le vrai problème qu'on a avec ces entreprises chinoises, c'est que on est jamais rassuré. Il y a eu le précédent avec Huawei. Huawei a été interdit aux États-Unis parce que soupçonné aussi d'utiliser des applications
d'espionnage, qui rapatrieraient des données en
et Chine. Surtout avec leur matériel de réseau 5G, etc. Donc c'est jamais clair ce qui se passe avec les entreprises chinoises. Les Américains demandent d'avoir accès au code source. Le peu qu'on en a vu, c'est qu'il y avait effectivement des accès à des serveurs bizarroïdes, non identifiés, et puis les conditions d'utilisation ambitions de TikTok, on les connaît, hein, c'est-à-dire que on donne son âme, son slip et son et le nom de son chien quand on s'inscrit sur TikTok.
Ce qui même me dérange... sans le savoir, même on donne des infos sans le savoir. C'est
voilà.
Ça qui est pire.
Ce qui ne dérange pas quand il s'agit de Facebook ou de Google, hein, vous remarquerez, mais là ça dérange parce que c'est une entreprise chinoise. Donc c'est un peu le problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben effectivement, ce que disait Anthony, soit si le texte passe, hein, soit l'entreprise va être vendue à un Microsoft, un Oracle ou à je ne sais pas
qui. On rappelle, hein, aujourd'hui, elle est la propriété de ByteDance, d'un groupe chinois voilà, tentaculaire aussi, qui a plein
qui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ne fournit pas TikTok sur le marché chinois, c'est-à-dire TikTok est interdit en Chine, ils ont un autre réseau parallèle qui n'a pas grand-chose à voir. Donc l'entreprise sera soit vendue, soit elle sera purement et simplement interdite, ce qui, à mon avis, est...
Oui, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a le fondement légal, donc on dit qu'il y a de l'espionnage, il y a un processus politique, hein, donc derrière, là, voilà, qui a enclenché avec le Congrès, et puis les TikTok et ses défenseurs pourraient évoquer, hein, plaider contre une interdiction fondée sur des arguments liberté d'expression, d'autres droits. Il y a des défis techniques aussi, parce qu'on ne ferme pas comme ça une application avec les VPN, et puis il y a le contexte international, hein, on est encore Chine-US, Yves.
Non mais, enfin, c'est la guerre. Mm-hmm. Je veux dire, on est dans une guerre matérielle, on le sait, on le voit en Ukraine, on le voit, etc. Et c'est la guerre économique. Donc, quand il y a la guerre, il y a la guerre. Donc là, il y a une guerre entre la Chine, guerre digitale entre la Chine, il y a du cyberespionnage, et puis tous les coups sont permis. Et là, après que les États-Unis soient attaqués à Huawei de manière extrêmement violente, les États-Unis soient attaqués à DJI, les drones, de manière extrêmement violente, maintenant ils s'attaquent à TikTok de manière extrêmement violente. Et de l'autre côté, okay, il y a aussi les interdictions, c'est-à-dire que les Chinois veulent interdire WhatsApp en Chine.
Ils ont demandé à Apple de l'enlever de son App Store.
Donc on est dans une guerre. Voilà, il faut regarder les choses. Enfin, c'est une guerre. Et comme tous les coups sont permis, eh ben, allons-y gaiement. Bon. Maintenant, est-ce que cette guerre va résoudre les problèmes? Est-ce qu'on est en train d'accentuer les choses? Est-ce qu'on est en train d'aller vers un monde meilleur? Ou est-ce qu'on est en train de cliver les choses? Alors, bon, on parle d'espionnage. Ok, alors parlons d'espionnage. La Chine espionne? Oui, la Chine espionne. Les États-Unis espionnent? Oui, les États-Unis espionnent. La France espionne? Oui, la France espionne. Et je l'espère, tous les pays espionnent. Est-ce qu'il faut se laisser espionner? Non, il ne faut pas se laisser espionner. Maintenant, quand je regarde moi, l'espionnage qui m'importe, c'est pas de savoir si mon voisin regarde une vidéo de TikTok sur le football ou si une vidéo de TikTok à faire la cuisine, j'en ai pas grand chose à faire. Enfin, et j'imagine que Xi Jinping, d'ailleurs c'est rigolo parce que Xi Jinping vient d'annoncer, enfin ses équipes, pas lui directement, vient d'annoncer que c'était une violation de la liberté individuelle.
Oui.
La Chine qui se positionne comme le champ de la liberté individuelle. Alors là, on atteint des subtilités qui m'échappent totalement. Hein, ok, on est d'accord. Mais bon, si on parle d'espionnage, il y a quelque chose qui part de la TikTok, mais on reviendra à TikTok, c'est LinkedIn. Parce que cette société, tout le monde donne son CV, ses informations, les informations de son entreprise.
C'est bien avec ses...
sur LinkedIn. Ouais. Et donc, Microsoft, puisque ça appartient à Microsoft, a toutes les infos d'à peu près toutes les entreprises et tous les hommes du monde. Donc, quand on parle d'espionnage, volontaire, involontaire, je veux dire, comme on le disait, tout le monde espionne.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
sur les réseaux sociaux,
il y aura un peu de lobbying de la part d'Américains, de Google, par exemple, qui voient.
Oui, parce qu'il y a le bon espionnage, c'est celui pour la nation, pour la patrie,
c'est la guerre.
Et le mauvais espionnage, c'est celui des autres.
Ouais, voilà. C'est la guerre. Donc il y a les bons d'un côté pour celui qui est considéré être bon et les mauvais de l'autre. Et donc ils se tapent dessus. Bon, les arguments sont fallacieux. C'est un conflit. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est pas l'espionnage de Madame Michu qui importe. Tout le monde le sait bien. C'est les argents qui sont en jeu. C'est les influences. C'est l'influence sur la démocratie. En fait, c'est la radicalisation des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Ouais. Le problème, il est là. C'est-à-dire que des gouvernements, des lobbyistes radicalisent via des réseaux sociaux des utilisateurs. Et ça, c'est un vrai problème.
Ouais. On peut même aller plus loin. Il y a même un côté abrutissement de ces.
Oui, alors l'abrutissement n'a pas eu besoin des réseaux sociaux.
Oui, il y a aussi ce contexte où on se nourrit, on passe 4 heures sur ces applications-là et finalement, finalement on n'en a rien tiré si ce n'est passé du temps. Bruno, depuis Montréal, alors quel est ton regard outre-Atlantique de justement cette interdiction? On rappelle, hein, il y a déjà des pays qui ont déjà interdit. Il y a l'Inde, il y a quelques pays qui ont interdit TikTok sur leur territoire. Le Népal.
Oui, tout à fait. Et donc, les États-Unis ne seraient pas le premier pays à le faire. Mais de l'autre côté, puis j'aimais bien ce que Yves disait, parce que ça ramenait à l'avant-plan toute l'histoire stratégique derrière ça. À l'époque, quand Donald Trump a tiré la première salve, faut se rappeler du contexte. Ben, il y avait Huawei qui était aussi dans le décor, mais on sentait bien que Donald Trump voulait montrer qu'il était capable de faire de la pression sur la Chine sans nécessairement tirer du canon. Et ça avait fonctionné. Bon, puis rapidement après, on avait oublié, ça s'est tassé. Mais dans l'entrefait, il y a quand même les services secrets puis les différentes agences américaines qui ont dit oui, il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc, il y a l'aspect sécurité de l'État qui, évidemment, aide et nourrit ces poursuites et cette réglementation qui est devant les chambres au Congrès américain. Mais moi, j'ai bien hâte de voir, parce qu'il y a énormément de lobbies à l'heure actuelle qui sont en train de faire pression pour que ça ne passe pas au vote. Alors, si ça passe, bien évidemment, c'est Biden qui aura beau jeu. Et son administration, quand on regarde ça, à l'heure actuelle, toutes les agences américaines, toutes les agences, j'exagère, mais bon nombre d'agences qui ont à contrôler ce qui se fait en ligne, pensez au FCC, pensez à d'autres, le ministère de la Justice, ils sont en train présentement d'avoir dans le collimateur Meta, Apple, Google, Microsoft, ils ont un œil là-dessus, et puis Amazon aussi, et donc ils sont tous en train de les enquêter. Et donc, les gens de la tech, même aux États-Unis, se sentent un peu les coudes serrés. Alors, vous imaginez qu'un Chinois, lui, peut craindre le pire. Et effectivement, il va falloir voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va être décidé. Mais il y a énormément de jeux politiques, économiques là-dedans, avant tout, avant que ce soit une question là, de sécurité nationale.
Oui, parce qu'il y a d'ailleurs, je vais relier ces deux news, c'est toi, Didier, qui l'avais repéré, c'est les ados font de moins en moins leurs recherches sur Google, vont davantage sur TikTok, alors pour différentes raisons. Parce qu'il y a de la vidéo, parce que c'est plus pertinent. C'est-à-dire, on va aller chercher un restaurant, on ne va plus aller sur Google dire tiens, je suis dans telle ville, voilà un restaurant. On va aller sur TikTok et voir un peu ce que mes amis, ce que mon entourage, ce que mon écosystème recommande comme restaurant. Et ça, ça se voit de plus en plus. Alors, il perdait un peu, même si les IA génératives ne sont pas des moteurs de recherche, mais ils perdaient un peu de trafic, et là, ils en perdent encore plus.
Alors, c'est un phénomène culturel, hein, effectivement. Mm-hmm. C'est les ados qui ont été biberonnés au réseau depuis qu'ils sont nés. Donc, pour eux, le réflexe, c'est effectivement de chercher sur le réseau qu'ils consultent, c'est-à-dire TikTok ou YouTube. Alors, faut pas s'alarmer, on est encore. Oui. C'est encore
c'est des. Pas un virage massif,
non,
mais quand même.
On en est.
C'est des petits signaux faibles.
Donc c'est une agence qui s'appelle Axios qui a fait cette étude. 46% des 18-24 ans commencent leur recherche sur Google, donc il en reste quand même une grande majorité. Le reste, c'est 21% sur TikTok et 5% sur YouTube. Alors, ça se comprend. Il y a des très bons tutos sur YouTube et effectivement, on a besoin de savoir comment dépanner son robinet de salle de bain. On va aller chercher sur YouTube la vidéo correspondante. Il y a des astuces, ce qu'on appelle le life hacking sur sur TikTok, où ils expliquent comment transformer, je sais pas quoi, une bouteille d'eau en piège anti-moustique ou des trucs comme ça. Enfin, donc toutes ces choses-là sont plus facilement accessibles quand on va les chercher dans le moteur de recherche local de Google. De YouTube ou de TikTok que si on passe par Google. Et puis, l'autre phénomène.
Ça peut expliquer une action un peu de lobbying qui pourrait y avoir des Google et consorts au niveau américain notamment.
Oui, mais alors, le fait est que Google en ce moment n'est pas dans une très bonne position. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les résultats sont de moins en moins pertinents, qu'il y a de plus en plus de résultats sponsorisés, que c'est un peu le foutoir. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si Google cherche une autre stratégie vers l'IA, hein, avec Gemini, avec d'autres pistes comme ça, c'est parce que on arrive peut-être en bout de souffle sur le paradigme du moteur de recherche tel qu'on l'a connu il y a des années. Bon, Google fait encore 90%
de... On ne s'inquiète pas trop pour eux pour l'instant, mais c'est ces petits signaux faibles que l'on regarde toujours.
Et je pense que ça
peut aller très vite.
Et je pense que ça va s'accentuer encore davantage au fur et à mesure qu'il y a toute cette génération de jeunes qui arrivent et qui sont formatés pour aller chercher des contenus sur les réseaux qu'ils connaissent le mieux.
Yves, qu'est-ce qui peut se passer là maintenant pour TikTok, enfin aux États-Unis, hein. Après, il peut y avoir des répercussions, bien entendu, en Europe. qu'on...
D'abord, on est en campagne électorale. Mm-hmm. Hein, donc, en campagne électorale, les choses sont toujours plus exacerbées que dans un flux normal. Et après, la législation prend du temps. Donc, on va voir si ça passe au vote au Sénat, d'abord. Hein, comme Bruno le disait, c'est pas sûr, c'est pas gagné. Si ça passe au vote au Sénat, ce sera gagné. Parce que Biden va promulguer la loi. Après, quelles vont être les défenses de TikTok? J'en sais rien, je connais pas suffisamment la législation américaine.
Oui, parce qu'il faudrait que Google Play le retire, cette application soit retirée de Google Play, de l'App Store d'Apple. Donc, voilà, ça ferait des pressions aussi entre les sociétés.
Il n'y a pas de précédent, je suis en train de chercher, Bruno, peut-être que tu as des idées en tête, mais il n'y a pas de précédent comme ça d'un service de communication, on va dire, pour pas dire réseau social, qui du jour au lendemain était interdit. Ça, c'est
Wish, non ? Wish, enfin en Europe, je crois qu'il avait été interdit à l'époque, qui vendait des produits.
Non, je ne sais pas souvenir qu'il ait été interdit, Wish. Je crois qu'il est.
Juste été.
Il a chuté de sa belle mort, parce que c'est un autre Chinois qui l'a remplacé. Je ne sais pas, Bruno.
Bruno ?
Aux États-Unis, ça va être une première meilleure dans le monde. Puis on le disait tout à l'heure, il y a du côté de l'Inde, notamment, elle a été interdite. Et donc, les joueurs qui sont présents et qui gèrent les boutiques, ben, doivent retirer. Et à l'inverse, je vous dirais, comme il se fait déjà depuis longtemps en Chine ou en Russie, il y a des applications qui sont pas disponibles localement, tout simplement parce que, et ça, c'est en utilisant différentes technologies, là, qui, si l'entrepreneur les retire pas, de son propre, de sa propre façon, ben, c'est les gestionnaires des boutiques qui le font pour être en règle avec les gouvernements. Ça se fait, mais aux États-Unis, ça va vraiment être une première. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est délicat comme décision.
Oui, et puis là, on parle des gestionnaires d'application, mais il y a tous ceux qui vivent. Alors, il y a des Coca-Cola et tout ça qui vivent de la pub sur TikTok, enfin, qui mettent de la pub sur TikTok, mais eux font de la pub ailleurs.
Il y a les influenceurs, il y a les marques,
Il y a quand même business derrière, absolument, ouais. Avec des gens purement américains.
Non, je pense que c'est pas... Bon, d'abord, encore une fois, c'est une guerre. Ouais. Il y a aussi une guerre politique aux États-Unis entre les républicains et démocrates qui est exacerbée à quelques mois la présidentielle. Elon Musk est contre, Donald Trump est contre cette interdiction. Il faut savoir que un des grands sponsors de la campagne électorale de Donald Trump est aussi actionnaire de TikTok, de ByteDance en fait, très exactement. Donc on voit que c'est quand même extrêmement compliqué. Bon,
c'est pour ça que je pense pas que l'interdiction pure et simple soit une voie envisageable.
Je crois pas que ce soit une solution. Ouais. Je crois qu'il va y avoir des tractations et des négociations. Bon, maintenant, est-ce que c'est la bonne bataille économique que doivent mener les Américains contre la Chine? J'ai quand même des doutes parce que je suis pas sûr que focusser sur ce sujet-là soit le meilleur moyen économiquement de faire plier la Chine, parce que TikTok, bon, une fois que, imaginons,
non mais la réponse a été immédiate, hein, le fait que la Chine ait désactivé WhatsApp et Threads de l'Apple Store, c'est pas un hasard.
Et là, je vous conseille d'aller voir ça. C'est l'une des secrétaires d'État, Gina Raimondo, là, aux États-Unis, au commerce américain, qui, dans une interview qu'elle a donnée une grande émission sur
CBS, 60 Minutes.
60 Minutes, voilà, où elle dit nous sommes des années en avance sur ce que... Donc elle on l'interrogeait sur le fait que Huawei avait sorti son Mate 60, là, son dernier né, avec des puces
7 nano.
Plus pointu que ce qu'on imaginait, ce dont ils disposaient. Et elle dit attendez, allez regarder un peu d'un peu plus près. C'est quand même pas du niveau de ce que l'on fait aujourd'hui.
Bah, elle veut pas dire le contraire d'un autre côté.
Nous avons surpassé la Chine en termes d'innovation, etc.
Non, mais je pense encore une fois qu'il y a un conflit. Bon. Les deux protagonistes, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, ont besoin d'argent. Parce que ce conflit coûte très cher. D'abord, chacun est en train... Les budgets militaires, il y a eu un rapport qui est sorti aujourd'hui. Les budgets militaires dans tous les pays du monde n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Donc, ça explose. Et dans les budgets militaires, il y a les budgets de cyberespionnage et il y a les budgets de l'influence, le soft power. Okay, donc, il faut de l'argent. En gros, pour faire très simple, quand on cherche de l'argent, soit on les cherche auprès des riches parce qu'ils sont super riches, soit on les cherche auprès des pauvres parce qu'ils sont nombreux. Ok. Bon, moi j'ai appris ça il y a longtemps. Donc les Américains, ils cherchent l'argent auprès des Taïwanais, des Japonais, des Singapouriens, des Européens, éventuellement un peu des Canadiens. Ok. Et puis les Chinois, ils cherchent l'argent dans le reste du monde. Alors ils partent partout, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres, mais ils sont nombreux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si TikTok est interdit aux États-Unis, ça va donner probablement encore plus de puissance à TikTok pour aller dans le reste du monde. Donc on est dans un système, et on le voit bien avec Huawei. Huawei est banni aux États-Unis, il est quasiment banni en Europe, il n'a jamais été aussi fort dans plein de domaines. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens se séparent et que ils vont chacun sur leur terrain de chasse, ils ont chacun leur domaine, et ce conflit, au lieu de rester un conflit entre deux États, ça sépare le monde. Alors, on se souvient qu'il y avait à un moment donné les États-Unis qui disaient toujours, maintenant il faut qu'il y ait le découpling, hein, il faut découpler les choses. Et on a vu que le découpling ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à séparer l'économie occidentale de l'économie chinoise au sens large.
On a toujours ce cercle.
Alors maintenant, on n'appelle plus ça le découpling. On dit, le découpling n'a pas marché. Okay. Il faut faire le dérisking. Dérisking, ça veut dire enlever le risque. Ça veut dire qu'il faut faire des usines de TSMC aux États-Unis, un peu en Europe, etc., etc. Donc, on voit bien que la stratégie de conflit direct économique, elle n'arrive pas encore à donner les résultats. Donc, et on s'aperçoit que ce découpling ne marche pas. Donc il va falloir trouver des moyens de vivre ensemble en dérisquant, en gardant une certaine souveraineté et en changeant les règles. Mais le découpling et l'affrontement fort, direct, économique, je crois que c'est clair qu'il n'aura pas lieu.
Et finalement, est-ce que la solution, c'est pas l'Europe qui... on voit l'exemple de TikTok Lite, Didier, de réguler, tout simplement.
Oui, comme d'habitude.
TikTok Lite,
la spécialité
c'est, pour
de
rappel,
la Commission européenne.
Je le fais très, très bref, mais en gros, c'est on récompense les gens qui passent du temps sur TikTok. Voilà, oui. Ils ont des bons d'achat et tout ça. Oui. Donc c'était un moyen. Et puis là, la Commission européenne, alors via tout ce qui est lié au DSA, même ils parlent de la santé mentale. Ils disent bon, en fait, les gars, non, TikTok Lite, ça doit pas passer. Hein.
Oui, alors c'est un vrai problème parce que c'est une des astuces qu'ils ont trouvées pour effectivement fidéliser encore plus les utilisateurs de leur réseau. Le problème, c'est que on s'aperçoit de plus en plus que ces réseaux ont un aspect négatif sur la santé mentale, sur la radicalisation, comme tu dis, qui n'est pas forcément la radicalisation islamiste, ça peut être tout et n'importe quoi. Et les politiques s'en alarment, ils en parlent, le Premier ministre a estimé que les portables ne devraient pas être utilisés dans les établissements
parce
scolaires.
Que les portables, sous-entendu, ce qu'on en fait, c'est avec les réseaux sociaux.
Et donc, cette nouvelle idée de TikTok, elle arrive au plus mauvais moment, quoi. Donc, on sent qu'il y a derrière une volonté, effectivement, de relancer la machine en créant de nouvelles addictions.
Et parce qu'on voit en plus, on parlait de ça, je crois qu'il le parlait avec François la semaine dernière dans un débrief, qu'en Europe, il y a encore un gros potentiel, un gros réservoir d'utilisateurs potentiels de TikTok, donc il faut essayer de relancer la machine. Bruno, toi à Montréal, quel est ton regard justement sur ce TikTok Lite?
C'est une nouvelle stratégie de TikTok d'essayer de rentrer dans le marché plus sérieusement. Mais je vous soulignerai que parallèlement, j'ai l'impression que TikTok, et c'est probablement la consigne qu'ils ont reçue de ByteDance, c'est d'essayer de développer différents marchés. Et la dernière initiative, moi, que je regarde de plus près, parce que c'est disponible présentement uniquement au Canada et en Australie, c'est TikTok Notes, N-O-T-E-S. Et ça, c'est intéressant, parce que là, ils sont en train d'essayer de rentrer dans les reins d'Instagram. C'est une application qui fonctionne à la TikTok, mais plutôt qu'être des vidéos, c'est des photos où il est possible d'inscrire évidemment du texte. Et ça, c'est une nouvelle tentative. J'ai l'impression qu'on est dans la diversification des marchés. Alors, la version Lite, on tente de faire quelque chose. Le TikTok Notes, on essaie de trouver autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on essaie différents outils, différentes plateformes pour voir où on pourrait développer du marché, puis un peu comme Meta l'a fait avec le temps, Meta a réussi à aller chercher plus de 3 milliards d'utilisateurs, toutes plateformes confondues, parce que justement, ils ont été capables, avec les différentes plateformes, d'attirer la clientèle et puis après de faire communiquer toutes ces plateformes-là.
Yves?
Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, quelle que soit la législation, si on veut la bypasser, on la bypass dans le monde du digital. Il suffit de passer par des VPN et il suffit de prendre d'autres adresses à l'étranger et on bypass. C'est-à-dire, en français, c'est...
On contourne
la législation. Donc, honnêtement, tant bien même TikTok Lite serait interdit en France, pourquoi pas ? Celui qui voudra l'utiliser, il prendra un VPN ou il prendra une adresse, je sais pas où, dans quelques pays que ce soit, et puis il dépassera le truc, et puis c'est facile. Honnêtement, c'est facile. Peut-être même que TikTok, il proposera des solutions clés en main pour le faire, ça n'en parlera plus. Bon, donc, je pense que tout ça, c'est quand même beaucoup de gesticulation, un peu ridicule.
Oui, enfin, c'est une prise de position politique, c'est-à-dire...
Voilà, c'est une prise de position politique.
La Commission européenne dit, on est sensible à ce problème-là, et voilà, nous, quelle est la manière dont on va réagir. Ce qui va peut-être faire réfléchir les parents qui vont se dire, tiens, si les politiques l'ont interdit, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison.
Oui, je pense que les parents, ils connaissent TikTok, ils ont d'autres, enfin, ils voient bien les conséquences sur leurs enfants, hein, quand ils sont à table et qu'ils parlent plus aux parents, bon voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est pas l'addiction, parce qu'honnêtement, si on avait voulu combattre l'addiction, le tabac, la cigarette et autres, enfin, je veux dire, des addictions, il y en a beaucoup. Ce qui me gêne, c'est la radicalisation que mène cette addiction. C'est vraiment ça. Parce que tout le système est fait pour radicaliser les gens. Et c'est pas une radicalisation forcément politique. Je veux dire, vous aimez les choux-fleurs, et vous aimez pas les carottes, on va vous expliquer pourquoi les choux-fleurs sont meilleurs que les carottes.
Mais c'est justement ce qu'expliquait Didier tout à l'heure quand il parlait du moteur de recherche. Moi, j'ai pris un gentiment le moteur de recherche, je cherche un restaurant, je passe par TikTok, mais ça peut être, tiens, je voudrais savoir ce que pense tel candidat européen, je vais aller sur TikTok, je vais me retrouver avec pas ce candidat, mais plein de sbires qui
vont. Oui, il y a toujours les algorithmes derrière qui vont orienter.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Je vais avoir qu'un
Et toujours dans la direction qui fait plaisir à l'utilisateur. Donc, si on a un petit penchant pour un sport, la pétanque, on a un penchant pour la pétanque. Eh bien, petit à petit, on va nous mettre de plus en plus de vidéos et de groupes sociaux sur la pétanque.
On va manifester parce que ce n'est pas un sport olympique.
Voilà, et après on va manifester parce que ce n'est pas un sport olympique, etc., etc. Donc on voit bien que ça a tendance à pousser les gens pour aimer encore plus ce qu'ils aiment déjà, ou sur lesquels ils ont une tendance. Et évidemment, ceux qui aiment la pétanque et ceux qui détestent la pétanque, du coup ils se retrouvent dans des situations opposées, radicales, ce qui génère des conflits sociaux. Et c'est ça la problématique pour moi.
Du buzz et donc de l'argent.
Du buzz et de l'argent, mais une radicalisation au sein de la société. Et ça, c'est le problème.
Eh bien, voyons, on est allé beaucoup plus loin que cette simple tentative, que cette simple potentialité de suppression de TikTok aux États-Unis. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment un phénomène qui est légal, qui est technologique, qui est politique, qui est géopolitique. Merci à tous les trois. Vous restez bien entendu avec nous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, reprendre notre débrief de la tech avec Yves Maître chez Jol Capital, Didier Sens, journaliste, et Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Tiens, je vais démarrer avec toi, Bruno. On a appris, avec tout ce qui se passe autour du DMA, du DSA, eh bien bientôt on pourra se passer d'Apple Pay pour payer avec son iPhone. Ça, c'est un gros changement. Alors après, il faut voir, moi je crains toujours dans ces cas-là qu'on aille pour protéger le consommateur, on ennuie un peu plus l'utilisateur.
On l'a vu récemment, on n'a qu'à penser aux utilisateurs de Google Maps qui sont mis du jour au lendemain à chercher l'application sur leur téléphone. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait quand même 2 ans que ça traînait, que la Commission européenne avait accusé Apple d'avoir une pratique monopolistique, quelque part. Et donc, l'idée là-dedans, il fallait trouver un dénouement à cette histoire-là, de voir que c'est pas officiel, mais bon, des gens près du dossier ont commenté, ont livré de l'information, ont fait couler de l'information, comme quoi Apple déciderait maintenant de permettre à un deuxième joueur de permettre l'utilisation de son appareil pour du paiement sans contact. Là, après, il va falloir savoir quel joueur va avoir cette chance-là. Est-ce que ça sera Google Pay qui aura le droit d'avoir accès à ça? Est-ce que ça sera un tiers peu connu qui, finalement, devant l'inconnu, les gens vont quand même se retourner vers Apple Pay? J'ai bien hâte de voir qui sera le joueur choisi, parce que ça pourra faire toute la différence pour Apple.
Et alors, est-ce que ce joueur, ça peut être des banques?
Si, ça, oui, je pense que ça peut être des banques, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que J'ai eu beaucoup à travailler avec Apple quand j'étais chez Orange, et ça a été un bras de fer incroyable, cette histoire-là. Je veux dire, c'est l'histoire qui a plus de 10 ans, hein, cette histoire de paiement. Puis aussi le NFC dans le métro à Paris. Donc les Américains vont pouvoir payer, enfin, passer le métro avec leur Apple dans 100 jours, enfin un petit peu moins de 100 jours, 98 ou 97 jours. Okay, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut quand même dire que la communauté européenne, entre autres, parce qu'elle a beaucoup participé à ça, a un poids très fort. Parce que faire plier Apple, c'est compliqué.
Et donc, les amendes sont lourdes, hein. On a vu ce qui s'est passé.
1,8 milliard sur Spotify. Donc là, on voit quand même qu'à un moment donné, Apple se dit, bon, ok, il faut respecter la législation européenne et il faut ouvrir la chose. Est-ce que ce sera une banque? J'en sais rien. Je pense que Apple a probablement déjà signé quelque chose avant même cette annonce, et qu'il y avait des discussions entre les différentes parties pour essayer de trouver un accord qui satisfaisait à tout le monde et qui satisfait l'utilisateur. Donc j'imagine que le partenaire est déjà connu.
Oui, parce qu'on imagine mal on imagine mal toutes les banques se mettre à avoir leur propre application de paiement sans contact.
Là, oui, d'ailleurs ce qui est très flou, c'est qu'on ne sait pas si ça va être intégré à Apple Pay, c'est-à-dire si on va avoir accès à d'autres moyens de paiement
d'Apple Pay. Quand on va payer, on va nous dire, nous donner plusieurs choix.
Mais d'après ce que dit Apple, parce que c'est Apple qui a fait cette proposition, il s'agit d'utiliser une solution externe. Externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de télécharger une application supplémentaire qui va remplacer Apple Pay quand il s'agira de...
C'est là où je disais ennuyer l'utilisateur.
Voilà. Et à mon avis, on peut faire confiance à Apple pour ne pas forcément faciliter l'expérience utilisateur avec d'autres solutions que les siennes.
Oui. Bruno, c'est ce que tu imagines aussi?
Oui, exactement. Et plus on rend la chose complexe et moins transparente pour l'utilisateur, plus ils vont rester avec Apple Pay. Et dans le fond, c'est ce que Tim Cook et son équipe veulent.
Et puis tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Google Maps. Hein. Avant, on tapait une adresse dans Google, enfin sur son mobile, et on avait directement le Google Maps. On cliquait et on avait l'itinéraire. Et désormais, maintenant, c'est
compliqué. Hein.
Alors,
c'est compliqué.
Quand on est assez habile de ses doigts, on va s'en sortir. Mais il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu, qui étaient un peu perdus de savoir sur quelle appli il fallait aller, changer d'appli, enfin ressaisir l'adresse. Enfin, c'était... Tout ça est un peu complexe, donc c'est pour ça que je dis parfois ça protège les consommateurs, certes, mais...
Ça part d'une bonne idée. L'idée, c'est de favoriser la concurrence, de permettre à de nouveaux acteurs de s'imposer, de donner le choix aux consommateurs, etc. Alors, on l'a vu sur l'histoire de la musique en ligne, sur l'histoire de l'App Store. Alors, l'App Store, c'est un peu un cauchemar, hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais ce qui est proposé, ce sont des App Store payantes pour lesquelles il y a très peu d'applications. Donc, encore une fois, tout ce qui part d'une bonne idée n'aboutit pas forcément à des solutions sympathiques. On va pas passer sur l'exemple des cookies, hein, la fameuse loi RGPD qui était censée protéger l'utilisateur. En fait, c'est très bien, on adhère à 100%, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on passe notre temps à décocher des cases pour pas se faire espionner quand on visite un site web, quoi.
Non, puis comme tu le dis, Yves, il va falloir savoir qui va, est-ce que ça va être un Visa, un Mastercard, est-ce que c'est lui qui va être un acteur, est-ce que ça va être une banque, est-ce que ça va être une banque internationale, enfin voilà, c'est un peu ça. Et, non, mais... et toi, selon toi, voilà, ils ont déjà quand même prévu
Je pense qu'ils savent où ils sont, ils savent où ils vont. Non, quand on connaît Apple, c'est pas, il y a pas
quand
beaucoup de choses pour
cette
le hasard.
Là, c'est qu'ils savent déjà.
Et que c'est déjà négocié. Pour revenir à ce que tu disais, tu as absolument raison. On avait nos habitudes et on s'était habitué à nos habitudes, bonnes ou mauvaises. C'était plutôt pas si mal que ça. Et là, on nous casse nos habitudes. Donc évidemment, si on prend le cas de Google Maps, parce que c'est un cas, je pense, qui parle à tout le monde. Bref, depuis 15 jours, c'est quand même un peu galère, quoi, parce qu'on ne sait plus, que ce soit sur son ordinateur, sur son smartphone, on ne sait plus trop où on est. Bon, donc on va revenir à quelque chose de plus simple après. Donc on est dans une période intermédiaire qui est vraiment déconcertante, parce que ça fait des années où on est dans une certaine facilité. Là, on nous demande de réapprendre autre chose. Cette autre chose n'est pas prêt, n'est pas encore stable, n'est pas encore structurée. Donc on se sent perdant, on se sent lésé de prime abord. Il faudra pouvoir juger dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est vrai que comme ça, à court terme, moi en tant qu'utilisateur, et je crois que je ne suis pas le seul, beaucoup de gens autour de moi sont frustrés de l'utilisation de leur, enfin de Google entre autres, mais pas uniquement.
Et ça a changé. Bruno, est-ce que tu vois aussi une extension, toi qui es outre-Atlantique, alors pas loin des États-Unis évidemment, parce que tout ça, tout ce qu'on voit en Europe, on a vu le RGPD, eh bien ça s'est développé en Californie, enfin sous une autre forme, et puis là on voit ces règles qui vont peut-être peu à peu influencer aussi le législateur américain, que ce soit au Canada ou que ce soit carrément aux États-Unis, aux États-Unis, oui.
Ben, c'est sûr que chaque fois que l'Europe arrive à légiférer et obliger un des géants, je vais dire américains parce que la plupart sont américains là, dans le monde du numérique, à se commettre ou à devoir ouvrir une brèche, dans leur monde, dans leur système clos, c'est une victoire pour le reste des utilisateurs de ces applications-là à travers le monde, parce que vous créez une jurisprudence et par la suite, ça devient difficile. Pour on va parler d'Apple, ça va être plus simple, mais ça sera plus difficile pour Apple de dire lorsqu'un gouvernement étranger va lui demander, ben nous, on voudrait avoir une boutique qui permet d'avoir des applications, une boutique souveraine, si vous voulez, où on peut faire la promotion de d'applications qui sont de notre cru, de notre terroir. Apple pourra pas dire non, techniquement c'est pas possible parce que vous l'avez déjà fait en Europe. Et c'est dans ce contexte-là où chaque fois, évidemment, j'ai un petit sourire au coin de la bouche à chaque fois que j'entends que la France ou l'Europe va légiférer dans le contexte, parce que je me dis, les pauvres, ils vont encore devoir vivre justement une période d'ajustement. Mmh. Mais chaque fois que vous faites ça, c'est pour le bénéfice des autres. Alors, vous êtes un peu les martyrs numériques de la planète, mais c'est numérique. Tout le monde qui en bénéficie par la suite.
Est-ce que Yves, ça peut freiner l'innovation, non pas chez Apple et chez les grands, mais d'acteurs qui se posent des questions, tiens, qui se disent, tiens, là, j'ai une super idée, mais finalement, quand je réfléchis, je compte mes trois coups d'avance, je me dis, attends, si je me retrouve, moi, je vais investir beaucoup dans cette technologie, et puis dans 3, 4, 5 ans, si j'ai la bonne idée, je me retrouve un peu face au mur en disant, ah, tiens, c'était super votre idée, mais non. Là, il faut l'ouvrir.
Je pense que t'es un peu dans le cerveau va un peu trop loin, un peu trop vite. Non, je pense que là, on parle d'Apple, on parle de Google, on parle de Meta, on parle de Microsoft, on parle de TikTok, on parle de gens qui sont tellement gros qu'il faut limiter leur croissance, parce que c'est sur des règles saines de concurrence.
Parce qu'ils sont dans la banque, la santé, le mobile, ils sont partout.
Et c'est des méga entreprises du digital, et que si on veut avoir un digital sain économiquement, avec de la créativité, au contraire, il faut un peu les casser pour laisser de l'espace aux autres. Donc je pense plutôt le contraire, c'est-à-dire que ceux qui étaient un peu contraints par ces gros qui les étouffaient, vont pouvoir récupérer des espaces de liberté. C'est ça qu'il faut espérer.
Ce qu'ils ouvrent là un peu, Didier, on a vécu ça, enfin, dans d'autres domaines, on était très très jeune à l'époque quand il y a eu les démantèlements, notamment dans les télécoms, avec AT&T qui avait été coupé en plusieurs sociétés. Aujourd'hui, on voit l'effet, c'est revenu en 3-4 sociétés. Mais est-ce que ça veut dire, c'est un peu l'arme anti-démantèlement? On se dit, tiens, je préfère m'ouvrir un peu que de me retrouver un jour
Apple réagit de manière très intelligente, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont maintenant force de proposition, qui sont aller voir la commission en disant voilà notre solution pour être conforme au DMA, et la commission a priori était d'accord avec cette idée. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu fais bien de rappeler cette histoire du démantèlement des télécoms. On peut rappeler aussi le précédent de Microsoft avec son navigateur web. On peut parler de plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, rappelle-toi, entre le moment où il y a eu une décision de la Commission européenne et son application, ça a pris une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, c'est fini. Ouais. Ça prend 3 mois, 6 mois. Donc, ça, c'est vrai. La sanction, elle est immédiate. Donc, les grandes entreprises, comme tu dis, celles qu'il faut juguler, celles qu'il faut maîtriser, sont des entreprises qui doivent s'adapter très rapidement. Et elles ont les moyens de le faire. Donc, il n'y a aucun problème. Si on prend une disposition qui stipule qu'ils doivent se conformer à telle ou telle règle, ils ont moins de temps pour le faire, mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens.
Alors, on reste sur toujours sur ce sujet Apple. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu cette petite news qui est passée. C'est le magazine Challenge qui l'a sorti. C'est une société qu'on avait repérée chez Tech & Co, mais on ne les avait pas vus depuis 2022-2023, enfin au début 2023. Elle s'appelle Datacalab. C'était une entreprise française qui, à l'époque, s'était faite connaître parce qu'elle s'était spécialisée dans l'analyse, la capture de l'analyse d'images. Notamment, ils travaillaient, ça va vous rappeler une époque, à la détection du port du masque dans le métro. Voilà, on était à cette époque-là avec donc ils travaillaient sur des bases de données d'images très importantes. Voilà, ils travaillaient sur du réseau, ils faisaient du edge computing. Enfin, il y avait pas mal de techno. Finalement, ça a pas marché terrible parce que la détection du port du masque, à un moment on n'avait plus besoin, mais il y avait d'autres débouchés, et puis on a vu que la reconnaissance faciale, quand même on a du mal avec les algorithmes et tout ça. Donc la société Datacalab, montée par Xavier Fischer et son frère, a pivoté. Ils sont allés plus vers des logiciels de compression d'images parce qu'ils avaient beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Et puis à un moment, ils se sont retrouvés un peu. C'est Léa Benaïm qui travaille avec nous sur cette émission, qui les a eu en ligne cet après-midi. Dit à un moment, on s'est retrouvé face à un mur. Problème de clients, problème de technologie, de concurrence aussi avec les GAFAM. On peut pas aller plus loin. Et donc on choisit de rejoindre Apple, puisque c'est Apple qui vient de les racheter. Alors les conditions du rachat ne sont pas connues, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut penser
il y a un truc qui me perturbe, c'est que personne parle de l'activité réelle de cette boîte. On a l'impression que c'est une boîte qui sort de qui fait de l'intelligence artificielle.
Ah, ils font du deep learning, des choses comme
mais
ça.
Mais ils font de la mesure d'audience. Leur cœur de métier, alors on dit c'est une entreprise spécialisée dans la compression d'algorithmes et l'intelligence artificielle, ouais. C'est comme ça que c'est présenté. Allez voir sur leur site et sur les sites d'informations financières qui parlent d'eux, on peut lire qu'ils développent des technologies innovantes permettant d'analyser des réactions de panélistes, de détecter des émotions de personnes.
C'était ça, au cinéma, on pouvait détecter.
De mesurer des audiences pour des panneaux publicitaires ou encore de quantifier le trafic visiteur. Donc, en gros, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la mesure d'audience numérique. Et leurs clients, c'est RATP, Médiamétrie, Disney. Donc, c'est une entreprise de marketing numérique, avec des algorithmes spécifiques.
Après, ils ont un peu bifurqué. Hein. Ils sont allés vers les algorithmes de compression pour.
Mais c'est pas ça qui intéresse Apple.
La reconnaissance, ils n'arrivaient pas à le vendre. Et ils se sont dit, tiens, on a développé ces technologies de compression d'images pour que ça parte sur les réseaux. Et ils se sont un peu plus concentrés dans ce domaine. Mais voilà.
On a en France des champions de la mesure d'audience. Hein. On a des gens qui sont spécialisés dans l'espionnage commercial, hein, Criteo, oui. Bel exemple. À mon avis, cette entreprise
Datacalab
ouais. est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire sur l'extraction et le traitement de données. Et je pense que c'est plutôt cet aspect-là qui intéresse Apple plutôt que la compression de données. Enfin, franchement, ils ont.
Là, ce qu'ils disent, c'est les chercheurs de Datacalab se sont penchés sur les technologies d'optimisation des réseaux neuronaux. Alors, les deux fondateurs, eux, ne font plus partie du deal. Ils quittent l'entreprise et c'est les chercheurs qui vont rester chez Apple. Yves, tu as suivi ça ?
Alors, d'abord, je ne connais pas cette société, mais il s'avère que je suis étonné que ça se soit su.
Oui, parce qu'ils en rachètent plus. Ils rachètent souvent des boîtes.
Ça date de décembre.
Ils se rachètent souvent des boîtes. Et moi, j'ai été au conseil d'administration d'une société française qui s'est fait racheter il y a quelques années par Apple. Personne ne l'a su et personne ne le sait. Et je ne dirai jamais comment ça s'est fait. Mais bon, il s'avère que quand on est au conseil d'administration, on participe un peu aux négociations d'une manière ou d'une autre. Donc, et je sais que dans ces contrats-là, il y a des clauses de confidentialité tout à fait légitime et extrêmement stricte. Donc je suis étonné que ça se soit su. Ça, c'est la première chose que je voulais dire.
Juste, on aura peut-être Xavier Fischer, on l'a eu en ligne, là. Donc j'ai dit Léa Benaïm l'a eu en ligne. Il doit négocier justement, sous réserve que l'on ne parle pas du rachat et des conditions du rachat, il viendra peut-être nous parler justement de leur société, de l'activité, et pourquoi ils ont pivoté, pourquoi ça a moins bien marché, ils se sont vendus à Apple.
La deuxième chose, c'est que généralement, les dirigeants d'entreprise n'intéressent pas Apple. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent deux choses, les brevets.
Ouais, bah c'est...
et les experts. Point à la ligne.
Ah ben là, c'est ça. Les chercheurs restent. Et après, d'ailleurs, certains sont déjà partis en Silicon Valley.
C'est que toutes ces équipes-là, même quand on était au board, on les connaissait, parce que c'était des petites PME, donc on se voyait, on se faisait la bise, tu vas bien, avant le conseil, machin, nul. Tout d'un coup, ils vous parlent plus. Ils sont chez Apple, ils vous parlent plus. On ne sait plus rien. Ils répondent plus aux mails, à peine aux textes. Bon, ils déménagent parfois, et on les retrouve à Cupertino. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Ah bah je sais pas, je me promenais. Ah bah tiens, toi aussi. Voilà. Donc il y a un process d'intégration de ces entreprises chez Apple qui est hyper réglé, hyper structuré, hyper performant. Et Apple fait ça régulièrement. C'est-à-dire que, alors celle-ci, ça s'est su, mais rien ne nous dit qu'aujourd'hui, hier, demain, après-demain, il n'y en a pas encore une autre française ou autre. Voilà, ça fait partie de leur process. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça se sache. Alors après,
le rachat il date de 17 décembre quand même.
Oui, mais ça c'est récent.
4 mois, 5 mois.
En fait, c'est quand même bizarre qu'il y ait une fuite, parce qu'il y en a d'autres, je peux te le dire, puisque moi j'en connais une pour laquelle j'ai participé. Ça ne s'est jamais su, et je ne vois pas pourquoi ça se saurait maintenant.
On brûlera la plante des pieds tout à l'heure.
Non, mais ça ne se saura pas. Et la deuxième chose, c'est quels sont les brevets. Et quand même, moi, il y a un truc qui m'interpelle, parce que dans ce qu'ils ont, il y a la reconnaissance des émotions faciales, dans les brevets, parce que c'est les brevets qu'ils rachètent. Et je me dis, mais ça, dans un casque de virtual réalité, enfin, dans un casque, ça sert. Parce que quand on a le eye tracking, c'est-à-dire on sait ce que les gens regardent dans leur casque, et on connaît leurs émotions, quand on sait ce que les gens regardent, et qu'on connaît l'émotion des gens sur ce qu'ils regardent, waouh, on commence à avoir un paquet de données sur l'aspect irrationnel et sur l'aspect émotionnel de ces personnes-là.
Tu penses que c'est plus ça qu'ils sont venus chercher que... c'est vrai que la partie compression, ils l'ont tous. Enfin, ils savent tous travailler...
Ils ont beaucoup de pression.
C'est l'algorithmie de réseaux neuronaux.
J'en sais rien, mais ça fait partie des brevets. Mmh. Mais quand j'essaie de regarder où Apple est en difficulté en ce moment... Et ils doivent en sortir, c'est sur ce casque. C'est quand même pas... Enfin, il y a encore eu un certain nombre d'articles de vente, enfin, avec pas des chiffres, parce qu'on n'a pas les chiffres, mais des guesses, comme on dit en français.
Des indicateurs.
Oui, des indicateurs, de vente, et elles ne sont pas très bonnes. Elles sont pas très bonnes. Mmh. Donc il va falloir qu'ils redonnent un nouveau souffle à ce casque Apple. Et moi, je me dis, c'est vrai que quand j'étais chez HTC et que je devais travailler sur ce casque, si j'avais eu ça, ça donne un paquet d'informations sur l'utilisateur et donc sur ce que vit l'utilisateur puisqu'il est enfermé. On ne sait pas ce qu'il vit. Si on sait ce qu'il regarde, si on sait comment il réagit, là, on peut commencer à lui donner du contenu qui va apprécier et faire en sorte qu'il reste plus longtemps dans le jeu ou plus longtemps dans ce monde virtuel.
Bruno,
Bruno,
qu'est-ce que tu as cette même analyse là que Yves ?
Oui. Tout à fait, je m'en vais dans le sens de Yves et je vous rappelle que, pas plus que c'est drôle parce qu'on parle de Vision Pro, mais le casque tient en partie ses origines au Québec. Hein. Quand Apple l'a acheté suite à la découverte au CES il y a plusieurs années d'une entreprise québécoise qui avait un casque immersif, le Virvana, qui a été acheté évidemment en douce, personne ne l'a su. Et puis il y a une partie de l'équipe qui a été longtemps, d'ailleurs il y en a encore quelques-uns qui sont à Cupertino et puis ça a été ça. Ça a été la cellule de départ par la suite qui s'est fait. Mais l'autre histoire que je trouve intéressante avec cette acquisition-là, et tu l'as dit, Fred, c'est le pivot. Ça, je pense que ça envoie un message optimiste pour les startups qui ont de la difficulté et qui voient pas vraiment leur... À un moment donné, bon, on a une bonne idée, on la développe puis on frappe son mur, on voit que les temps ont changé. Ben, de pas hésiter à regarder pour développer et changer sa trousse de billes devant soi. Je pense le meilleur exemple qui est française mais qui vit aux États-Unis, c'est Hugging Face. Mm-hmm. Au départ, moi, je me souviens les avoir interviewés quand ils sont débarqués à New York et ces Français-là avaient développé un Tamagotchi numérique. Aujourd'hui, ils sont bien loin de ça. Oui. Ils sont encensés par les gros joueurs de l'IA. Ils sont devenus le hub. Et c'est parce qu'ils ont décidé de changer leur business. Et ça leur a bien servi. Alors, dans le cas d'Atacara, moi, je trouve que c'est intéressant de les voir évoluer. Mais dans leur cas, ils ont toujours travaillé sur le maître mot étant la reconnaissance faciale. Et ils ont bonifié avec les années les différentes étapes de développement, leur savoir-faire. Puis là, ça s'accumule avec l'achat d'Apple.
Ben voilà, ben on vous tiendra au courant parce qu'on essaie d'avoir Xavier Fischer, donc le cofondateur de cette entreprise. Voilà, il faut voilà, on pourra pas parler concrètement de ce que va faire Apple, mais ils pourront déjà nous raconter leur histoire et leur histoire de pivot. Il nous reste juste une minute, juste un mot. Alors c'est une news qu'a sorti ce matin BFM Business. Yves, le gouvernement français qui pourra investir dans Atos, ça veut dire est-ce qu'un jour on aura ce cloud français? Tu en parlais, hein, faut quand même le dire, tu en parlais il y a 2-3 ans déjà.
Oui, ben moi je suis content de voir que le gouvernement français écoute BFM Business, et il a bien raison, et il faut l'encourager, comme beaucoup de gens. Oui, je pense que il y a une question d'infrastructure pour être gagnant dans l'intelligence artificielle. On a des start-up d'applications comme Mistral, comme Qtech, etc., qui sont vraiment sur la bonne pente, et je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter. Sur l'infrastructure, il y a tout un travail à faire, on n'y est pas. Atos a des capacités, Atos va pas bien, que le gouvernement français décide de les soutenir en privatisant, et nous en avions déjà parlé ici sur ce plateau, je trouve que c'est plutôt positif parce que c'est dans l'infrastructure que la bataille va se faire, et si Atos peut être soutenu par le gouvernement français et plus largement par l'Europe, espérons-le, eh bien moi je trouve que c'est extrêmement positif, et je salue cette initiative du gouvernement, si toutefois elle est vraie.
Oui, si toutefois elle se fait. Ben, merci d'avoir nous avoir donné ton avis. Merci à tous les trois, Yves Met, donc operating partner chez Jeul Capital, Didier Sens, journaliste, et Bruno Guglielminetti, voilà, qu'on accueille toujours avec plaisir depuis Montréal avec nous. Je ne sais pas si, Bruno, est-ce que tu viendras à Vivatech ici au mois de mai?
Je vais y être.
Eh bien voilà, ben on te garde un siège au chaud ici même sur ce plateau. Merci encore à tous les trois. Allez, on se retrouve dans un instant. On va voir le flash écho de Léa Benaïm. Et puis ensuite, on va vous parler de ce super calculateur d'Ifremer. Et puis, on va aussi parler de ce hackathon organisé par l'armée justement autour de l'IA. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.